Châtellerault, ici Châtellerault.
Les apprentis du bien nourri. Bonjour et bienvenue au Moulin du Bien Nourri à Châtellerault. Comme chaque semaine, on se retrouve pour consulter encore nos petits carnets de stage. Là, je suis dehors sur la terrasse de la maison. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu les photos sur le blog, j'explique comment ça se passe. Il y a un grand jardin avec une belle maison de maître et puis il y a une chaufferie, il y a un moulin, il y a plein de dépendances comme ça. Et c'est un lieu dans lequel on se retrouve pour bosser tous ensemble avec des petits, des grands, des moyens. En ce moment, c'est l'hiver, évidemment, il fait froid, il pleut. Ça sent bon, ça sent le feu de bois, ça sent la terre mouillée. Et on vient de finir le déjeuner, de la salle à manger. Et là, je me retrouve sur la terrasse, je suis tranquille. C'est un moment pour moi un peu de répit, comme il y en a peu dans ce genre de stage, parce que, évidemment, tout le monde se met à travailler après manger et personne n'a encore cours. Et oui, les stages, c'est fait pour bosser. Alors, on travaille, on apprend à travailler. Le boulot de tous les jours, c'est ce qu'il y a de plus difficile à apprendre pour un jeune musicien. Et pourtant, c'est vraiment là le point crucial. C'est-à-dire qu'un élève qui a compris comment travailler, ben, il arrivera à un niveau assez satisfaisant pour se faire plaisir avec son instrument. Alors qu'un élève qui ne sait pas travailler, évidemment, il va se décourager très vite et il va laisser tomber. Donc c'est une grande responsabilité pour un prof d'apprendre à ses élèves à travailler. Et finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Alors aujourd'hui, je profite de ce petit moment avant les cours pour passer dans les salles de travail, pour faire exactement ce que la morale réprouve, c'est-à-dire écouter derrière les portes. Et je vais essayer évidemment de les aider un petit peu à bosser. Alors, on se balade ensemble dans les couloirs et dans les chambres du Moulin du Bien Nourri. C'est jusqu'à 13h40 sur France Musique. Les apprentis au boulot. Voilà, là je suis au rez-de-chaussée de la maison. Et dans le rez-de-chaussée, il y a cette fameuse salle à manger, la cuisine, et puis trois pièces en enfilade. Alors, la première, elle a été aménagée en régie pour l'occasion, pour le tournage de l'émission, évidemment. Il y a plein de fils partout. La deuxième pièce, ce qui est la plus grande, c'est la salle de cours. Alors là, elle est vide, évidemment, puisqu'il n'y a pas de cours. Et la troisième pièce, c'est une salle dans laquelle travaille Edouard. Alors, je vais aller faire travailler Edouard. Plutôt, on va un peu l'espionner. On va voir comment il travaille. Comment ça se passe quand on commence à travailler une œuvre? Par quoi on commence, en fait, quand on travaille un nouveau morceau? On va écouter Edouard, parce que ça fait pas très longtemps qu'il travaille ce morceau. Salut Edouard. T'en es où là dans ton travail, raconte.
Là j'essaye de trouver un sous-texte pour que ça sonne bien.
C'est quoi le sous-texte?
Ça sert à justifier ce qu'on joue et à raconter, à plus parler la musique.
Parler la musique, c'est exactement ça. C'est-à-dire, le texte c'est les notes et le rythme. Et puis le sous-texte c'est ce qui va te donner la raison. Donc c'est ça que tu dis, justifier. Te donner la raison de dire ces notes-là. Alors, comment tu le travailles, ça, en fait?
Je joue la partie de violoncelle.
De violoncelle aussi.
Et je vois à quoi ça me fait penser. En fonction de ça, je crée un sous-texte.
J'explique juste aux auditeurs que tu me dis la partie de violoncelle, parce qu'en fait, là, tu travailles sur la partition principale, la partition, quoi. pas le matériel, la partition dans laquelle il y a tout, l'orchestre et le violoncelle. Et en fait, pourquoi tu travailles avec tout ça?
Mais je voulais regarder en fait ce qu'il y avait en dessous de la mélodie.
Ouais, bon, c'est bien, t'es un bon élève. Et en fait, je vais te dire, heureusement que tu avais pris cette partition, sinon tu m'as entendu. Bon, alors, vas-y, travaille un peu pour essayer de sentir ce sous-texte. Alors... Oui, alors, qu'est-ce que ça te donne comme...
Ça donne un peu un sentiment de... révolte, en fait, de colère.
Ah ouais, colère, la colère. Très bien, refais-moi ça, et c'est peut-être en essayant de sentir, toi, maintenant, le sentiment de colère, et du coup, tu joues ça. Ah, ça, c'est exactement ça, bravo. C'est exactement ça. Et tu vois comme... bon, alors, évidemment, il y a des petits trucs qui sont pas parfaits, mais parce que ça, après, tu vas le travailler, tu vas le peaufiner, tu vas faire en sorte que ta gamme, là, enfin, ça va s'éterniser, elle soit bien, bien claire. Mais là, tu as déjà tracé les grandes lignes du croquis de ce que tu veux. Hein ? Comme un architecte qui voudrait construire une maison, il commencerait pas par poser une pierre là. Non, d'abord, il prend sa feuille et puis il dessine la maison qu'il aurait envie d'avoir. Puis après, il va faire les plans. Après, en dernier lieu, il va poser sa pierre. Je vais peut-être te laisser là, continuer de travailler comme ça. Et tu continues sur tout le concerto. Hein. Tu restes pas juste sur une petite partie. Tu fais tout le concerto comme ça. Il faut que toute la musique que tu joues là t'évoque des choses, plein de possibilités différentes. Tu fais marcher ton imagination, c'est ça qui va faire ton premier acte d'interprète. D'accord ? Allez, travaille bien. Je te quitte. Les enfants, ils ont une imagination débordante. Et souvent, on casse cette imagination en leur faisant commencer le travail par des choses... qui les contraignent avant tout. C'est-à-dire que là, il s'agit d'abord de savoir de quoi ça cause, ce qu'ils sont en train de jouer, et ensuite, mais c'est pas dans un mois, hein, c'est dans quelques jours, des fois quelques heures, au bout de quelques heures, une fois qu'on sait ce qu'on raconte, on précise la chose de plus en plus. Alors pour avoir une vision globale, on va peut-être aller voir Lucie, là, qui est dans la chambre bleue, au premier étage. Elle travaille le concerto d'Elgar. Et pareil qu'Edouard, elle en est à peu près au début de son travail. On est derrière la porte, là. On écoute derrière la porte. En même temps que ça, j'aime beaucoup. Salut Lucie, ça va? Ça, j'aime beaucoup t'entendre chanter pendant que tu travailles, parce que ça, c'est vraiment une chose fondamentale dans le travail. Qu'est-ce que tu bosses particulièrement en ce moment?
Ben, la forme.
La forme?
Oui.
Ouais. Du premier mouvement?
Oui.
Ouais.
Premier...
C'est rare d'ailleurs ce que tu fais là. C'est-à-dire souvent. Quand on commence à travailler une œuvre, on pense même pas à travailler la forme.
Oui, oui, oui.
Alors que la forme, c'est ce qui va donner justement l'ossature, l'architecture générale, et ça, c'est formidable, ça. Bravo de faire ce travail. Alors, donc c'est un travail d'analyse, ça, oui. C'est au violoncelle ou c'est sur la table que tu fais ce travail?
Plutôt sur la table.
Ah ouais?
Mais en même temps, au violoncelle aussi pour... pour se rendre bien compte après.
Enfin, sur la table, tout à l'heure, je t'ai vu, t'étais
sur le lit.
avec ta partition dans les mains. Et alors, bon, alors, qu'est-ce que tu fais avec la partition dans les mains? Comment tu t'y prends?
Je pense qu'il faut d'abord trouver les grandes parties.
Oui? Alors, d'abord.
Mais d'abord, il y a l'introduction.
Alors, joue-la moi pour qu'on entende bien de quoi tu parles. Thank you. y a encore une phrase. Donc ça, en effet, c'est très bien. C'est tout à fait une introduction. Je note au passage que toi aussi, tu travailles sur la partition d'orchestre. Hein,
C'est beaucoup plus agréable parce qu'on peut se chanter les harmonies et se rappeler de l'harmonie qu'il y a à ce passage. Par exemple, un passage qu'on n'arrive pas très bien à faire... musicalement, on peut se chanter se jouer la basse et chanter le haut et ça.
Comment tu fais par exemple? Ouais. Voilà. Donc, tu chantes la basse là. Tu joues ta partie du violoncelle et tu chantes la basse.
Oui.
Ouais, c'est ça. Sauf que tu la chantes dans l'aigu parce que. Mais moi j'aurais chanté là mais. Et oui, c'est ça. Et du coup, tu prends conscience que là, tu es sur une...
Une pédale.
De
mi.
Ouais,
de tonique.
Qui est la tonique, d'accord. Donc, tu as ce premier thème, là, qui est en attente, parce qu'il est toujours sur la même basse, comme ça. Ça, tu t'en rendrais pas compte si tu ne travaillais pas avec cette partition-là, complète, c'est sûr. Et alors, ça, c'est ce premier thème, là, c'est l'élément A, on va dire, qui est en, on va dire... En mi quoi ?
Mi mineur.
En mi mineur, bon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans ce concerto ? Ça, ce serait quoi ? Ce serait un élément B.
Ouais.
D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ?
Il le développe.
Il le développe. Ensuite, il repasse à ?
A.
Donc, en fait, ça fait une forme A, B... C, qui serait le développement dont tu parles, B, A, c'est une forme en A, B, C, B, A, c'est une forme en... Ah, tu sais pas,
non.
Une forme en arche.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est tout bête. Alors, c'est tout bête, mais le fait de le savoir, tu vas voir que ça va te permettre de construire ton interprétation comme ça, en une seule phrase, du début à la fin du premier mouvement, une forme en arche, comme ça. D'accord, t'essayes ça?
Oui.
Pendant ce temps, je vais aller espionner Juliette. Mmh. Allez, travaille bien. Se balade, on continue la petite balade dans la maison du moulin du bien nourri. Là, on entend que ça bosse dans tous les coins de la maison. Alors, donc là, on va voir Juliette qui est dans la chambre verte. Et on a vu tout à l'heure avec Lucie que, bon, il y a le travail de la forme, mais il y a le travail finalement aussi de l'harmonie, hein, en jouant la basse. Et puis là, on va voir avec Juliette une autre chose à travailler, toujours relative au texte, toujours pour construire ce sous-texte dont Edouard nous parlait tout à l'heure. Alors Juliette, je voudrais que tu me dises un petit peu là sur quoi tu travailles dans ce concerto de Lalo. Là, tu es dans le final du concerto de Lalo.
Bah là, en fait, je travaille plutôt sur le rythme.
Oui.
J'essaie de sentir d'abord corporellement.
Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Je fais un cercle avec mon bras.
Oui.
Et en fait, ce cercle représente une mesure.
Oui.
Et donc, chaque début de chaque mesure, eh ben, je lance ce cercle, en fait.
D'accord. Et qu'est-ce que tu fais pendant que tu lances ce cercle?
Et donc je chante en même temps.
Ah oui. Oui, bien sûr, sinon ça servait à rien. Si c'est juste pour faire des ronds avec la main. D'accord. Donc tu chantes ta mesure. Donne-moi un exemple là. Montre-moi. Ouais, super. C'est vrai que là, on sent vraiment que c'est physique comme tu le fais, parce que tu lances vraiment sur les débuts de mesure, et ça, c'est très très bon. Donc une fois que ça s'est inscrit dans ton corps, tu l'essayes au violoncelle, c'est
voilà.
Ça l'histoire. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme moyen de travailler cette présence rythmique, d'autre que la roue? Tu te souviens, on avait fait ça avec les jambes.
En faisant le militaire aussi.
Voilà, c'est-à-dire avec les jambes, vraiment, pas juste en tapant du pied, mais en levant la jambe et en tapant le pied par terre sur les débuts de mesure. Ça peut donner aussi cette manière d'intégrer physiquement le rythme. Et je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais ça arrive souvent que... en fait, on ne sait pas très bien sur quel pied danser, si j'ose dire. Mmh. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, par exemple, un deuxième temps, on le faisait comme si c'était un premier. Ouais. Et en faisant ce travail de taper avec le pied ou alors de lancer une roue sur chaque début de mesure,
permet de clarifier
voilà.
Le temps fort, le temps faible. Ouais.
Et alors là, l'importance du rythme dans ce concerto, elle est immense. Oui. Ça donne vraiment le caractère.
Oui.
C'est quoi comme caractère?
Un caractère espagnol.
Montre-moi des rythmes spécifiques là, qui font très espagnol.
Yam, talampa, yam, talampa.
Eh oui, ouais, ça c'est sûr, ce rythme pointé là. Toujours dans l'idée de construire son sous-texte, de développer l'imagination. Tu penserais à quoi si c'était. S'il y avait un décor espagnol, tu penserais quoi?
Bah, ça serait un paysage où. Très, très sec, parce qu'il y a ouais. beaucoup de soleil, avec des couleurs d'immeubles très chaudes.
Ouais. Et si c'était un personnage, ce serait qui là, qui dit,
ça serait Carmen.
Ah bah oui, c'est Carmen, bien sûr. Bon, bah écoute, travaille bien.
Ouais,
travaille bien cette présence rythmique, parce que c'est vraiment très très important, ça, la présence. Et nous, pendant ce temps, on descend. On va descendre, on va aller faire un petit tour dehors, même si c'est pas très beau, vous avez entendu tout à l'heure qu'il pleuvait. Donc on descend de ce premier étage dans cette belle maison avec des milliers de choses accrochées au mur, des milliers de choses absolument partout sur les meubles, sur les tables. Voilà, les étagères sous un escalier avec plein de micro-sillons. Ouais, ça fait plaisir de voir ça, ces vieux disques, là. Là, j'entre dans la cuisine. Et tiens, je découvre notre ami Jaco, le perroquet. Il y a un phénomène extraordinaire avec Jaco. C'est que tout le monde se met autour de lui, essaye de le faire parler, il dit rien. Et puis, au bout d'un moment, en général, il dit un mot. Et là, c'est tout le monde autour qui répète le mot comme un perroquet. En général, ça marche bien.
Jaco.
Eh ben oui, mon petit Jaco.
Jaco.
À tout à l'heure.
Comme Jaco.
Allez, on va à la chaufferie. Alors, donc on traverse le jardin sous la pluie et on va retrouver Laurence qui est en train de travailler le concerto de Bruch. La finale du concert de Bruch. Alors lui, bon, il est déjà un petit peu plus loin dans son travail. Hein. Ça fait déjà plus longtemps qu'il a commencé à bosser ce final. Et du coup, il en est dans une autre phase. Là, il n'en est plus à essayer de savoir de quelle forme il s'agit, ni ce que ça raconte. Ça, c'est déjà assez clair dans sa tête. C'est même très clair. Et là, il est plus... commence à être plus dans une phase de peaufinage. Alors, tiens, il y a Bruno, le petit chien de Minouche, là, qui attendait pour qu'on rentre. Alors, Laurence, désolé de t'interrompre, je vous interromps tous, là. Enfin, en même temps, tu vois, c'est vachement bien pour moi de vous entendre tous travailler, là, parce que je me rends compte vraiment à chacun de votre évolution. Et puis aussi, c'est tellement important de savoir comment vous travaillez. Donc, dans ce passage-là que tu es en train de travailler, comment tu le travailles exactement?
Bon, déjà, encore David, j'essayais d'en faire deux dans le même marché.
Ouais, fais voir comment tu fais. Ouais, alors quand tu travailles encore David comme ça, il faut que ce soit beaucoup plus propre. Hein. Faut vraiment pas qu'il y ait de bruit parasite, faut pas que tu accroches plusieurs cordes à la fois, faut que tu sois très très précis. Voilà, et là tu vois, la dernière note, elle rentre pas totalement en vibration. Donc il faut vraiment que tu sois très propre là-dessus. Et ensuite, donc, quand tu rajoutes la main gauche, ça donne quoi?
Ouais, je vais très lentement.
Voilà, bon, ça me paraît vraiment très très sain, très bien comme travail, parce que tu te prépares très vite après avoir joué la note. C'est-à-dire, c'est action-préparation, action-préparation. Hein, c'est-à-dire que tout de suite, on passe d'une préparation à l'autre préparation, et ça crée au milieu une action, qui est la détente. Tu nous rejoues un peu plus vite maintenant ? Voilà, encore plus vite. Ouais, c'est bien ça. Et maintenant, sans y penser, in tempo. Ok, donc continue bien de bosser comme ça, parce que ça, c'est très important d'être très précis là-dessus. Ok ?
D'accord.
Allez, bon courage.
Merci.
Alors évidemment, là, on aura vu à quel point l'archet est important. Au point d'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure, de travailler sans la main gauche, et donc que encore David, pour que la diction, pour que l'attaque, l'articulation, la consonne de la note soit le plus précis possible. C'est aussi l'archet, c'est aussi vraiment c'est le pinceau du peintre, quoi. C'est ce qui va créer la ligne, c'est ce qui va créer la phrase, le phrasé, c'est ce qui va faire des pleins et des déliés. C'est vraiment l'instrument d'expression le plus fondamental pour les instrumentistes à cordes. C'est ce qui va imiter la voix aussi. Ah ben là, on arrive, on revient sur la terrasse. Il pleut toujours, mais ça n'empêche pas certains de jouer au ping-pong. On continue notre petite excursion dans la maison d'Hervé et Minouche. Et on va monter tout en haut cette fois, dans la maison. On va monter au deuxième étage, où on va retrouver Karine. Alors Karine, c'est l'accompagnatrice des stages. Pour ceux qui ont écouté déjà plusieurs fois les émissions, ils l'ont entendu absolument à chaque fois au piano. Et cette chère Karine, à force d'écouter les cours de violoncelle et d'accompagner tous les cours de violoncelle, elle s'est mise en tête d'apprendre le violoncelle. Mais alors, elle l'a fait en cachette. Elle a loué un violoncelle. Un jour, elle s'est dit, tiens, allez, je vais travailler toute seule. Et en prenant comme ça, en picorant tous les petits conseils que je pouvais donner aux autres élèves, elle s'est finalement donné des cours elle-même. Et au bout de 2 ans, elle a quand même gardé le secret pendant 2 ans, c'est quand même assez extraordinaire. Au bout de 2 ans, elle m'a dit, ben voilà, ça y est, j'ai appris le violoncelle. Est-ce que tu veux bien me donner des cours ? Alors évidemment, j'étais éberlué. Et surtout, finalement, je peux presque dire que ça a été ma meilleure élève. Parce qu'elle n'avait pas de défaut. Elle n'avait pas de défaut. Bien sûr, bon, elle ne sait pas encore jouer comme certains que vous avez entendus, ou que vous entendez dans les émissions qui font du violoncelle depuis 10 ans. Mais elle a un naturel dans le geste, une simplicité dans le geste qui est exceptionnelle. Et en fait, je pense que c'est parce que, tout simplement, elle n'a pas de prof qui lui dit « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Et elle a bien compris, finalement, que c'est par l'intérieur qu'on sent la simplicité d'un geste. Alors bien sûr, elle était déjà musicienne quand elle a commencé, puisque c'est une pianiste tout à fait remarquable, qui connaît parfaitement la musique et qui a des grandes facilités d'ailleurs d'expression musicale. Donc elle était partie sur de bonnes bases. Alors là, elle est en train de travailler, vous voyez, on est derrière sa porte, et elle est en train de travailler un morceau de Goltermann, une étude caprice de Goltermann. Déranger un peu. Salut Karine. Ça fait toujours drôle de te voir au violoncelle en même temps. Alors là, t'abordes quand même la grande difficulté. la pièce de virtuosité. Oui. Hein, l'étude caprice de Goltermann. Sur quoi tu travailles là, donc, particulièrement, là où t'en es?
Là, surtout sur le coup d'archet.
Sur le coup d'archet, oui. Parce que, qu'est-ce qu'il représente comme difficulté pour toi, ce coup d'archet?
En fait, si je le fais trop systématique, je fatigue beaucoup mon bras droit.
Et oui, parce qu'il faut arriver à trouver la manière de jouer ce coup d'archet. Là, fais voir comment ça fait. Arriver à trouver la manière de faire tout ça dans un corps libre.
Oui.
Comment tu vas procéder pour essayer d'avoir un corps libre?
Avoir conscience de tout corps.
Ouais,
la fois.
Ça, placer sa conscience dans son corps, être présent dans son corps. Tout à l'heure avec Juliette, on voyait la présence dans le rythme.
Oui.
Et là, il y a la présence dans le corps. Et finalement, cette conscience de tout le corps, ça va faire que tu vas lâcher les tensions inutiles.
Oui.
Et à ce moment-là, y a un geste simple qui va devenir possible. Mmh. Bon, bah écoute, on va te laisser travailler tranquillement. Merci, puis bravo quand même pour t'être mise au violoncelle comme ça, avec autant de courage et de persévérance. C'est bien, c'est super. Alors, on continue. Donc là, on est derrière la porte d'Anne. Et Anne, elle travaille tranquillement, là. Elle travaille lentement. Alors Anne, elle en est à la fin de son travail, là. Ça fait un petit moment qu'elle est dans le concerto de Saint-Saëns. Le premier concerto de Saint-Saëns. Alors, elle a travaillé tout le concerto, les trois mouvements, et une fois qu'elle était capable de les jouer, bah, elle peaufine, elle va du plus grand au plus petit, en fait. Et là, elle est en train de travailler très précisément un trait dans le premier mouvement, dans l'exposition du premier mouvement, et on va aller l'interroger sur sa manière de travailler, bien sûr. Bonjour. Bon, alors, tu es en train de travailler ce trait de Saint-Saëns, là. Tu peux nous le jouer un petit peu, qu'on puisse voir de quoi il s'agit exactement, qu'on puisse entendre plutôt de quoi il s'agit. C'est pas mal, on pourrait se satisfaire de ça. Toi, tu t'en satisfais pas?
Non.
Pourquoi?
Parce que c'est pas parfait.
Ça voudrait dire c'est quoi, parfait?
C'est pas propre, c'est pas encore tout.
Qu'est-ce qui est pas propre exactement?
La descente à la fin.
Ouais.
Tout n'est pas extrêmement juste.
Alors, comment tu vas travailler ça?
Lentement, un travail laborieux et en répétant jusqu'à ce que ce soit parfait.
Oui, mais alors le problème, c'est que si tu répètes, comme ça, est-ce que tu vas arriver à progresser? Pas forcément.
Mais pas répéter bêtement. Enfin,
ouais. Ce qui serait le travail intelligent, ce serait de vraiment visualiser l'emplacement
de la main avant de jouer.
Voilà, de la main avant de jouer, exactement, c'est ça. Mmh. Mais maintenant, là, il faut que ce soit propre. Comment tu vas apprendre à tes doigts à aller au bon endroit, exactement?
En détaillant le travail. Hein.
Vas-y, donne-nous un exemple.
Par exemple, en faisant juste la voix du dessous, toute seule.
Ok. Ensuite, comment tu fais?
La voix du haut, en plaçant toujours les doigts, les deux voix en
oui.
même temps.
Oui, vas-y. Là, par exemple, le petit à la fin, là, t'as ton doigt à fourcher. Alors, tu fais quoi pour rattraper ça?
Je
tu t'en fiches?
Non.
Non, tu le refais, voilà. Oui. C'est justement pour ça qu'on bosse. Alors, refais-le, vas-y. Voilà. Parce que c'est important, tu vois, de bien sentir que quand t'as une petite hésitation, des fois, on se dit que c'est rien du tout. Enfin bon, oui, c'est parce que mon doigt a glissé. Mais en réalité, la petite hésitation, c'est ça qui va faire qu'au moment du concert ou au moment où tu dois le jouer devant quelqu'un, eh ben, c'est là que tu vas te planter. Parce qu'il y a cette petite hésitation déjà au moment où tu travailles. Alors, quand tu vas être en situation de trac, voilà, ça va être grossi. Ouais. Tu comprends? Parce que ça va, tout d'un coup, ça va te faire peur, ça va prendre une autre dimension. Donc c'est ces toutes petites choses-là extrêmement précises. Des fois, c'est même des notes sur lesquelles tu n'entends pas que c'est faux, par exemple, mais tu sens que tu as failli mettre le doigt à côté. Et c'est ça qu'il faut travailler, là où tu en es dans ton travail. Hein. Faut vraiment nettoyer toute forme d'hésitation, toute forme d'à peu près. Bon, alors, maintenant... Voilà, on a fait le tour. Alors, on se réunit tous pour... on va en bas pour le cours collectif, d'accord? On sonne le rassemblement. Allez, cours collectif, Karine, on y va. On descend. Ah, ça, on peut dire que ça turbine dans le moulin du bien-aimé, hein, pendant les stages. C'est des week-ends qui sont très intenses. Ce qui est formidable, évidemment, dans cette intensité dans le travail, c'est que ça donne des clés, justement, pour ensuite travailler chez soi quand on est à la maison et qu'il faut bien qu'on travaille tout seul. Alors, on n'a pas forcément la même motivation. On n'est pas poussé par les autres aussi quand on est tout seul. Mais... s'il y a eu le petit stage du mois qui nous a donné pas mal d'idées, ça peut être tout à fait un avantage pour le travail personnel. Bon, alors maintenant que vous êtes tous ici réunis, je voudrais résumer un petit peu tout ce que j'ai vu là en passant sur votre travail. C'était vraiment intéressant parce que on a eu finalement un éventail de tout le genre de travail qu'on peut espérer sur une œuvre. Au moment du déchiffrage, ce qui compte, on l'a vu avec Edouard tout à l'heure, c'est la vision générale. Hein? Il faut avoir une vision générale de l'œuvre avant de dire quoi que ce soit. C'est-à-dire, quand vous êtes interprète et que vous devez commencer à travailler une œuvre, vous devez avoir le même état d'esprit qu'un metteur en scène qui doit monter une pièce. Évidemment, il va lire d'abord toute la pièce, puis après il va se faire une idée de ce qu'elle raconte, de comment il a envie, lui, de le raconter, etc. Hein, c'est la vision générale de l'œuvre. Ensuite, il va falloir tout de suite déterminer les différents caractères, c'est-à-dire déterminer le sous-texte de l'œuvre. Qu'est-ce qui va me pousser à jouer ces notes-là? Et ce sous-texte, donc ça on l'a vu avec Edouard dans son concerto de Boccherini, c'est basé sur l'idée qu'est-ce que ça raconte. Voilà, je joue quelque chose, je me demande ce que ça raconte, et ça clarifie dans ma tête le sens de ce que je suis en train de jouer. Ensuite, on a vu avec Lucie, dans le concerto d'Elgar, que pour avoir cette vision générale, il fallait avoir la vision de la forme. Hein, puisque les compositeurs, évidemment, écrivent une œuvre en fonction d'un canevas. Les éléments donc, de ce sous-texte, ils se basent sur quoi? Sur le texte, bien sûr. Donc, sur l'harmonie, on l'a vu aussi avec Lucie, sur
le rythme,
bien sûr, on l'a vu avec Juliette, Et puis on se donne petit à petit des images en fonction du contexte, en fonction de ce que ça raconte. Juliette, tout à l'heure dans l'allô, tu nous as parlé de l'Espagne, de Carmen. Ça nous a donné un sous-texte. Et puis après, quand on commence à connaître vraiment l'œuvre, comme Laurence par exemple dans son concerto de Bruch, alors là on commence à faire un travail d'horloger. Et il faut être très fin, il faut absolument tout mettre en place. Et pour que ça marche, il faut le faire évidemment dans un corps libre. C'est ce qu'on a vu avec Karine. Si le corps n'est pas libre, ça ne peut pas marcher. Voilà. Et donc, plus on avance dans le travail, plus il faut être précis, plus il faut sentir son corps libre, et plus il faut faire un travail mécanique. C'est ce qu'on a vu aussi avec Anne tout à l'heure. Voilà. C'est parti pour le cours-col. Le cours-col, aujourd'hui, ça va être pour faire un petit point sur ce stage. On va faire le bilan du stage. Vous avez chacun, on va s'écouter un peu, et puis on va faire chacun le bilan de ce qu'on a appris pendant ces 3 jours. Et pour les auditeurs de France Musique, ce sera l'objet de notre prochaine émission. Déposer le bilan, bien sûr. Je veux signaler à nos auditeurs qu'ils peuvent voir des images du tournage de l'émission sur le blog. Ce sera l'émission, elle sera notée comme l'émission de décembre. C'est Edouard, le blog manager, qui va disposer toutes les photos sur le site. Et vous trouverez le lien pour accéder à ce site sur la page de présentation de l'émission Les Apprentis du Bien Nourri sur francemusique.com. Voilà. Eh bien, c'est l'heure de se quitter. Cette émission a été réalisée de main de maître par Jean-Pierre Collard. Au son, aujourd'hui, pour faire face à toutes nos acrobaties entre voix, instruments, micro HF et perche stéréo, Célia Dufour et Alexandre Martin. Un grand merci à Hervé Minouche qui nous réserve toujours le meilleur accueil qui soit, c'est-à-dire celui de l'amitié. Et un grand merci à l'accompagnatrice attitrée de nos apprentis, la violoncellistique Karine Cello. Voilà, je rends maintenant l'antenne à Dominique Boutel et vous donne rendez-vous mercredi prochain à 13h sur France Musique avec les apprentis du Bien Nourri. D'ici là, amusez-vous bien!